Vivre FM Podcast. 11h midi sur Vivre FM, la vie des entreprises. Annelise Farcoa.
Une source d'enthousiasme, d'épanouissement, de motivation, un synonyme de souffrance, de désarroi, ou tout simplement le moyen de gagner sa vie. Alors de quoi je vous parle? Eh bien de votre travail, de votre boulot, de votre job, de ce qui oblige la plupart d'entre nous à se lever chaque matin avec plus ou moins de plaisir. Et ce matin, je vous propose de vous interroger sur votre propre relation avec votre métier, puisque je reçois Fabienne Autier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur-chercheur en management des RH à l'EM Lyon Business School et vous êtes l'auteur de Travailler pour quoi faire aux éditions GRSO, dans lequel vous démontrez qu'il est possible tout de même de s'épanouir dans son environnement professionnel. Merci à vous qui nous écoutez. Très belle journée à tous.
La vie des entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans la vie des entreprises. Nous sommes ensemble pendant une heure en compagnie ce matin de Fabienne Autier, professeur chercheur en management des RH à l'EM Lyon Business School et auteur de Travailler pour quoi faire aux éditions GRSO. Il y a tout ça sur votre carte de visite, Fabienne?
Oui, il y a tout ça. Sur ma carte de visite, il y a professeur chercheur, c'est mon métier. Et il y a aussi le rôle que je tiens dans cette école. Je suis responsable d'un département, on va dire, qui s'intéresse à la question de la transformation du travail. Donc ça, c'est sur ma carte de visite, mais pas le reste.
Alors justement, on va parler de votre ouvrage, puisque c'est comme ça, c'est pour ça que vous êtes venu ce matin, c'était à l'occasion de la parution de cet ouvrage « Travailler pour quoi faire ». On va en parler tout au long de l'émission, mais avant cela, c'est un petit peu la tradition dans cette émission, et comme nous sommes très curieux, enfin je suis très curieuse, je commence par quelques questions personnel, afin qu'on puisse un peu mieux faire votre connaissance. D'où venez-vous, Fabienne, et quel a été votre parcours pour en venir à vous intéresser justement à nos relations avec le travail?
Donc moi, j'ai un parcours de professeur-chercheur en gestion. Ça veut dire que j'ai d'abord fait des études initiales, en l'occurrence plutôt en sciences politiques, et ensuite j'ai fait un doctorat de gestion. Donc mon métier depuis la fin de ce doctorat, c'est d'enseigner et d'analyser les pratiques de gestion des ressources humaines et les pratiques de gestion du travail dans les organisations. Ce qui m'a amené à écrire ce livre en particulier, c'est un constat qui m'interpellait et que je faisais depuis quelques temps. Je fais non seulement cours à des étudiants, mais aussi à des personnes qui viennent se former en formation continue. On a notamment chez nous des personnes qui viennent faire des programmes que l'on appelle des MBA. Et la question qui m'a interpellée, c'était de voir ces personnes qui venaient chez nous, qui étaient plutôt en situation de réussite professionnelle, qui étaient généralement financées par leur employeur pour venir se former, et qui pourtant rapportaient de grandes difficultés dans leur rapport au travail. Certains allant jusqu'à des manifestations assez extrêmes de type burn-out, etc. Donc au départ, c'est cette question qui m'interpelle. Je me dis, comment est-il possible que des individus qui, a priori, ont tout pour être heureux au travail, rencontrent des difficultés dans leur rapport au travail?
Mais vous-même, vous n'avez jamais travaillé dans une entreprise?
Alors, si, avant de faire mon doctorat, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un département ressources humaines. Alors, à l'époque, c'était chez Matra, au tout début des téléphones portables. Donc, j'ai travaillé 2 ans chez Matra et ensuite, j'ai souhaité faire de la recherche parce que c'était une activité qui m'intéressait. Faire de la recherche, mais pour être utile à ceux qui travaillent, et pas seulement faire de la recherche pour le plaisir de faire de la recherche.
Mais vous en gardez quelque chose de bien? Vous dites que c'était une bonne expérience, ce travail en entreprise
Oui, ça l'a été. Ça a été une bonne expérience. Je me souviens encore des premiers dossiers sur lesquels j'ai planché, qui étaient pour moi très enthousiasmants. Et en même temps, alors je dois peut-être aussi dire que, avant même de travailler chez Matra, mon rêve c'était d'être journaliste. Et donc je retrouve là un petit peu le fil de ce désir initial. Ce qui m'a toujours intéressé, c'était d'essayer d'expliquer et de comprendre des phénomènes et de les rendre accessibles et utiles aux autres. Donc de ce point de vue, je rejoins mon intention initiale.
Alors actuellement, donc vous êtes chercheur et professeur. On ne dit pas chercheuse, hein?
Certains le disent. Moi, je vous avoue que je ne suis pas
féministe.
Fan, voilà, au point de mettre des E partout. Donc, je suis une femme, professeur-chercheur.
Et vous vous êtes intéressée dans cet ouvrage qui est paru il y a quelques mois, c'est ça, notre relation à tous avec notre travail. Comment vous avez travaillé? Vous avez interrogé des personnes qui travaillent dans des entreprises?
Oui, donc ce livre, il présente les résultats d'un projet de recherche que j'ai conduit avec mon co-auteur qui s'appelle Sanji Rambuatiana, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est le co-auteur de ce projet et de ce livre avec moi. Donc la façon dont on a procédé est très simple. On a rencontré 100 personnes,
oui,
de façon très approfondie, puisqu'on a rencontré chaque personne pendant des entretiens de 2 à 3 heures. Et on voulait avec eux être le plus concret possible.
Alors, donc, comment vous les avez choisis, ces personnes?
Alors, on les a choisis au fil de l'eau. Notre seul, je vais m'expliquer, notre oui, seul impératif était d'avoir des gens les plus divers possibles,
oui, ben
en
oui,
termes d'âge, en termes de formation initiale, en termes d'entreprises dans lesquelles ils travaillaient. Petites, grandes, publiques, privées, industries, services.
Donc des hommes, des femmes, tous les âges,
des hommes,
etc.
Des femmes. On était guidés par cette grande diversité. La seule restriction qu'on a posée, c'était d'aller voir des personnes plutôt en responsabilité. Donc ça veut dire des gens qui avaient plutôt des postes de manager. On a posé cette restriction, pas parce qu'on pense que les managers sont plus intéressants que les autres, mais parce qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on ait un minimum de dénominateur commun dans les personnes qu'on allait rencontrer, au risque sinon de comparer des situations tellement diverses que nous-mêmes, on allait se perdre. Imaginez que j'ai à comparer le travail d'un jardinier avec le travail d'un directeur financier. Il y a un moment où le spectre nous semblait trop large. Donc à ce stade, on l'a réduit à des personnes en responsabilité dans des organisations. Mais on ne s'interdit pas de continuer à élargir la recherche à d'autres types de rôles ou à d'autres types de métiers. Donc concrètement, avec les 100 personnes qu'on a rencontrées, on leur demandait d'ouvrir leur agenda de la semaine d'avant, ou de nous montrer l'agenda électronique de la semaine d'avant et de
donc
nous décrire.
Donc vous ne les avez pas rencontrés à la fin du mois de juillet, j'imagine?
Non, on les rencontrait pendant, au moment où ça venait. Vous imaginez que 100 entretiens de 3 heures, ça prend beaucoup de temps. Et on leur demandait de nous décrire ce qu'ils faisaient dans une semaine ordinaire de travail. Du début à la fin, de nous dire, y compris s'ils retravaillaient le soir, s'ils retravaillaient le week-end.
À quelle heure ils commencent à travailler, s'ils travaillent en dehors de leur bureau,
oui,
leur lieu de travail, voilà.
Oui.
Si,
quel temps de transport ils ont, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps de transport, quelles sont les activités qu'ils ont eues dans la semaine. Donc ça, c'était très factuel, décrire une semaine ordinaire de travail. On a même appelé ça autopsie d'une semaine ordinaire de travail. Ensuite, on leur demandait de nous dire, bon, sur la base de ces activités, qu'est-ce qui vous motive ou au contraire, qu'est-ce qui vous ennuie?
Qu'est-ce qui vous stresse?
Qu'est-ce qui vous stresse dans ces différentes activités? Donc là, vous voyez, c'est plus leur perception de ce qu'ils font objectivement. Et le troisième volet de l'entretien, c'était toujours, vous, aujourd'hui, comment vous sentez-vous dans votre rapport au travail? Est-ce que vous vous sentez mieux ou moins bien que dans le passé? Et comment voyez-vous le futur? À savoir, comment anticipez-vous l'évolution de votre rapport au travail? Est-ce que vous êtes tranquille avec le fait que vous allez devoir travailler encore 20 ans ou 30 ans? Ou au contraire, est-ce que vous vous angoissez de vous dire « mais je ne vais pas pouvoir tenir tout ce temps-là »
Alors ça a dû être étonnant pour eux, parce que c'est quand même assez rare qu'on se pose comme ça pendant 3 heures pour se remettre en question sur sa relation avec le travail. Donc ça a dû être... Il y en a peut-être qui vous ont dit « là, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas à quelle heure je commence le matin, je ne sais pas à quelle heure je finis le soir, oui ». De temps en temps, je travaille les week-ends, voilà. Les réponses ont été comme ça
Les réponses étaient assez précises parce que ça, c'est l'expérience que fait à peu près tout chercheur en sciences sociales, c'est que finalement, les gens, ils aiment beaucoup qu'on leur
parle. Ils aiment beaucoup parler d'eux.
Et ils aiment beaucoup parler d'eux. Donc, de ce point de vue, on était rarement déçus. Et l'autre chose qui nous semblait très intéressant, c'était de partir sur une base concrète. Sinon, le risque, c'était que les gens se réfugient dans du discours. Oui, j'aime bien mon travail. Non, j'aime pas bien mon travail. Là, on partait vraiment du plus concret possible. Donc, généralement, on a eu plutôt des entretiens qui duraient plus longtemps que prévu, plutôt que l'inverse. Ça, c'est sûr.
Alors, et on le sait, hein, y a une évolution énorme dans notre travail depuis 30, 40 ans, parce que nos parents, nos grands-parents rentraient dans une entreprise et puis ils restaient toute la vie. Et maintenant, c'est plus le cas. Hein. On va changer d'entreprise, on va même changer de métier tout au long de la vie. c'est comment est-ce que vous l'expliquez ça, que qu'il y ait plus ce même métier pendant toute une vie? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment est-ce que ça a basculé?
Ben, pour moi, le basculement, il est au moment du premier choc pétrolier. C'est la fin des Trente Glorieuses. Et c'est le moment où les entreprises ne vont plus pouvoir, de fait, garantir l'emploi à vie à leurs salariés. C'est le moment des premiers grands plans de licenciement. C'est le moment où des métiers entiers s'arrêtent. Ça a été d'abord la sidérurgie, c'est ensuite le textile. Et il y a eu toute une série de métiers comme ça. Donc, en fait, pour moi, le facteur premier, c'est l'évolution de l'économie. Hein, le fait qu'on rentre en stagnation, voire en décroissance, c'est aussi la financiarisation de l'économie, le fait que de plus en plus on dirige, les entreprises sont possédées par des actionnaires qui sont dans une logique financière court terme et qui donc font des arbitrages de réorganisation, de cession, de fusion qui bouleversent le déroulement tranquille d'une carrière pour un individu. Donc ça, ce sont on pourrait dire les données externes. Maintenant, nous, dans ce livre, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est justement l'autre face du problème, à savoir comment peut-on comprendre la dynamique interne qui guide la vie professionnelle de tout un chacun. Sachant que l'on travaille dans une même entreprise ou qu'on change 10 fois d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous construit et comment aller d'étape en étape d'une façon qui soit
cohérente
et pas une sorte de zapping permanent.
De suite de rupture, en fait.
Voilà. Et nous, c'est ce qui nous intéressait dans ce livre. Et de ce point de vue, on a la prétention de penser que c'est une approche assez nouvelle de ce point de vue. C'est-à-dire que, vous voyez, souvent, en gestion, ce qu'on regarde, c'est ce que l'organisation de l'extérieur peut faire pour motiver les gens. Ça, c'est vraiment 100 ans d'écrits de gestion sont centrés là-dessus. C'est-à-dire comment susciter la motivation des individus par des éléments externes. L'argent, la promotion, l'intérêt du boulot, la reconnaissance du manager, etc. Nous, dans cette enquête, on est allé essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait moteur pour l'individu pour progresser dans sa vie professionnelle. Et quel était l'agencement qu'on pouvait identifier de cette dynamique. Parce que justement, puisqu'on fait le constat que le contexte est de plus en plus compliqué, et c'est objectif, les carrières sont de plus en plus heurtées, les organisations ont quand même de moins en moins de moyens pour proposer des promotions, pour proposer des augmentations. On sait que l'instabilité permanente des entreprises produit une charge très très forte sur les individus. Donc pour nous, il était temps d'aller comprendre ce qui se passait d'une façon interne pour chacun, et donc d'être à même de mieux équiper la traversée qui va être la nôtre de la vie professionnelle.
Donc ça va être intéressant, on va continuer à parler de la motivation justement des salariés. Qu'est-ce qui motive les personnes à travailler aujourd'hui? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Est-ce que c'est le principal moteur? On verra ça dans la suite de l'émission et pour l'instant on fait une pause en musique, à tout de suite.
Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fus.
C'était Pic Martini, sympathique sur Vivre FM.
La vie des entreprises.
Jusqu'à midi sur Vivre FM.
Alice Farcoa.
Dans quelques minutes, vous retrouverez votre nouvelle rubrique « Les 3 minutes pour l'emploi ». Mais tout de suite, nous sommes dans la vie des entreprises en compagnie de Fabienne Autier, auteur de l'ouvrage « Travailler pour quoi faire » aux éditions Géréseau. C'est un drôle de titre, ça. Comment ça vous est venu? Parce que vous auriez pu effectivement dire « s'épanouir dans son travail »,« s'épanouir dans son entreprise » et tout ça. Mais « Travailler pour quoi faire », c'est quand même un petit peu polémique, un petit peu provocateur. C'est exprès?
Donc oui, c'était volontaire. En fait, on a choisi ce titre parce qu'on était un petit peu, comment dire, excédé de voir qu'aujourd'hui, en France, quand on parle du travail, il y a deux grands camps qui s'opposent. Le premier camp, qui est plutôt celui qui nous dit que le travail n'est que souffrance, que le travail est une activité qui ne serait, j'allais dire, que négative et qui produirait beaucoup de pathologies. Et de l'autre, on a un autre courant qui émerge plus récemment, qui est beaucoup plus angéliste et qui nous dit le travail, c'est le lieu du bonheur, de l'épanouissement, etc.
Il y a des gens qui pensent à ça.
Aujourd'hui, c'est deux.
Pourvu que ma directrice ne nous entende pas.
Donc aujourd'hui, ces deux courants existent. Et nous, on voulait signifier par ce titre qu'on travaille très souvent d'abord par obligation, parce qu'on doit gagner notre vie, et que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, le travail est un des vecteurs essentiels pour gagner sa vie. Mais néanmoins, faisant cela, on apprend aussi beaucoup de choses. Et donc, ce titre polémique, c'était pour souligner le fait que, certes, nous devons travailler, et devant travailler, ce serait intéressant de se demander qu'est-ce qu'on y apprend et en quoi ce que l'on fait au travail pourrait être une occasion de s'entraîner à grandir, à se développer, à se construire. Donc, vous voyez, l'idée, c'était de ne prendre ni un parti ni l'autre, de dire le travail, nous devons le faire. Et puisque nous devons le faire, essayons de le faire d'une façon qui nous permette d'apprendre, de nous construire et de grandir. C'était ça le parti pris, d'où le titre.
Alors justement, vous avez interviewé, vous nous le disiez juste avant la pause musicale, une centaine de personnes. Quelle est la motivation des personnes dans le travail? Est-ce que c'est vraiment gagner de l'argent ou est-ce que c'est effectivement, comme vous le disiez, s'épanouir, trouver un épanouissement en dehors de sa vie de famille, en dehors de ses loisirs, en dehors de sa vie amicale.
Alors, la plus grande découverte qu'on a faite dans ce projet de recherche, c'est la suivante. On s'est rendu compte que les individus n'étaient pas motivés par la même chose vis-à-vis du travail selon l'âge ou la phase de vie professionnelle dans laquelle ils ou elles sont.
Et selon le sexe aussi, est-ce que les hommes et les femmes ont un peu la même motivation?
Pour nous, sur la base de l'enquête qu'on a conduite, il n'y a pas de différence majeure entre les hommes et les femmes, en tout cas selon l'axe qu'on a pris qui était « qu'est-ce que je fais vraiment au travail ?». Par contre, il y a des phases de vie. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très sous-estimé. Le fait que selon les moments de notre vie, nous n'allons pas être motivés par la même chose au travail. Et on peut pourtant avoir le même travail du début à la fin. D'accord ? Donc, pour faire très simple, ce qu'on a observé, c'est qu'en première phase de vie professionnelle, on est essentiellement...
Qu'est-ce que vous appelez la première phase ? C'est-à-dire juste après les études ?
Voilà. Le moment où on rentre...
Ça dure combien de temps, cette première phase ?
Ça dépend des individus, puisque ça dépend de notre rapidité à apprendre, mais ça dépend aussi de l'organisation dans laquelle on est. Si on arrive dans une entreprise qui nous donne pas grand-chose à faire ou qui ne nous explique pas grand-chose, on va passer plus de temps dans cette première phase d'apprentissage. Mais ce qui ressort de notre enquête, c'est qu'après le premier rendez-vous qui est le premier job pour de vrai, qui va nous permettre de gagner notre vie, on va s'engager dans une première phase de vie professionnelle où là, le moteur très très fort, ça va être d'apprendre les bases de son métier. C'est ce que nous, on a appelé apprendre à prendre en charge nos obligations.
Oui.
Au travail, et c'est le propre du travail par rapport au loisir, par rapport à toutes les autres activités, nous avons à mener des activités dont nous n'avons pas le choix. Moi, je suis professeur-chercheur, je ne peux pas demain expliquer à ma direction générale que « Oh ben non, faire cours, ça ne me plaît pas vraiment. » Donc tous, le dénominateur commun...
Pas du jour au lendemain, en tout cas.
Le dénominateur commun du fait que nous sommes au travail, c'est que nous avons des obligations à mener. Donc nous avons des activités à mener à bien, qu'elles nous plaisent ou pas. Et cette prise en charge des obligations, on a observé qu'elle est, majeure en première partie de vie professionnelle parce qu'elle va nous rassurer en fait. On est un jeune professionnel, on rentre dans le monde du travail, on est à la fois enthousiaste à l'idée qu'on va enfin être un adulte autonome et en même temps, on est très inquiet de se demander si on va être à la hauteur. Et donc les obligations que nous donne notre employeur, notre entreprise, sont extrêmement structurantes pour pouvoir rentrer dans cette première phase de vie professionnelle. Elles nous rassurent sur le fait que petit à petit on apprend, et elles ont une deuxième fonction, c'est qu'elles nous incluent dans un collectif. Quand je travaille ici chez Vivre FM, parce que je prends en charge un certain nombre d'obligations, je me sens faire partie du collectif de cette organisation. Et ça me rassure. Je finis ma journée en sachant ce que j'ai fait et en ayant le sentiment que j'ai ma place ici. Donc, pour répondre à votre question, dans la première phase de vie professionnelle, ce qui va être extrêmement moteur, ce sont les obligations. Mais ce qu'on a aussi observé, c'est que à un moment donné, les obligations ne vont plus suffire dans ce qui nous motive à aller au travail. On va alors rencontrer là ce qu'on a, nous on a appelé un deuxième rendez-vous, qui est le rendez-vous du jeune professionnel qui se dit bah, « cette fois, j'ai le sentiment que les bases de mon métier, je les maîtrise ».
Mais ça vient ça comme ça? On se dit un jour, on se lève un matin en se disant « ça y est, j'ai l'impression que j'ai les bases de mon métier ». Non.
Beaucoup de gens que nous avons... Alors, ça, vous avez raison, ça peut se traduire de différentes façons. En tout cas, dans notre enquête, un certain nombre de jeunes professionnels nous l'ont dit. Et nous ont dit « c'est bon, maintenant moi j'ai le sentiment que je tourne en rond, je voudrais... »
Ah oui, c'est ça.
Plus je voudrais un périmètre plus large, je voudrais davantage
plus de responsabilités,
et où je voudrais aller voir un métier un peu à côté, et où je voudrais changer d'entreprise. Parce qu'ici c'est trop grand et donc je voudrais aller dans une petite, ou au contraire ici c'est trop petit et je voudrais aller dans une plus grande. Mais le marqueur de ce rendez-vous 2, c'est une insatisfaction forte, mais vous avez raison, qui se traduit différemment selon les individus. Le marqueur, c'est bon, maintenant je sais faire et j'aimerais me tourner vers plus grand, plus large, plus challengeant.
Alors on a quand même l'impression que depuis quelques années, on exige plus de s'épanouir, davantage de s'épanouir dans son travail. Et pourtant, on parle de plus en plus de stress, de surmenage et même de burn-out. On continue à en parler avec vous, Fabien Nautier, à l'occasion de la parution de votre livre « Travailler pour quoi faire ?». Mais pour l'instant, notre coach vient d'arriver, donc on lui laisse la parole. Une question, une réponse, 3 minutes pour l'emploi. À tout de suite. Nous avons reçu un message de Jean-Luc Danière. Il manage une petite équipe d'une trentaine de personnes. Un de ses collaborateurs souffre d'une maladie chronique. Il s'absente de plus en plus souvent et de façon aussi imprévue qu'irrégulière. Les autres salariés de l'entreprise commencent à s'agacer de ces absences répétées qui perturbent le service. Il nous demande comment faire pour intervenir auprès de son équipe avant que le conflit s'envenime. Philippe Béranger, vous êtes chargé de la communication au CCH. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à Jean-Luc ?
Alors, la maladie chronique s'apparente bien sûr à un handicap invisible. Et si la personne qui est atteinte de ce handicap invisible ne peut pas assurer son poste, il va donc falloir revoir l'organisation du travail. Et là, il y a peut-être deux actions à mener simultanément pour notre manager. Auprès de la personne, peut-être proposer une adaptation du temps de travail, par exemple du travail de back-office ou avoir des délais plus souples, pour la remise des projets ou dans la répartition du travail. Le mieux, sans doute, c'est de réfléchir avec le salarié lui-même sur les modalités d'adaptation de ce temps de travail. On peut aussi penser au télétravail, qui n'est souvent pas suffisamment utilisé dans notre pays et qui peut être pourtant une très bonne solution pour ce genre de problème. Et puis surtout, il faut faire des points fréquents pour s'assurer qu'on ne fait pas fausse route dans les solutions qu'on apporte et pouvoir aussi faire évoluer ces solutions au fur et à mesure. Puis parallèlement, il va falloir aussi rassurer le collectif, l'ensemble des collaborateurs, et montrer que l'on prend bien en compte la situation. Et là, il faut, à mon avis, faire une sensibilisation au handicap invisible, une forme de formation, d'une demi-journée, d'une journée peut-être plus courte, ce qui pourrait être utile pour toute l'équipe. Et ça va permettre notamment aux collaborateurs de faire tomber un petit peu les barrières, de poser des questions, alors peut-être pas directement d'ailleurs sur le collaborateur qui est concerné, mais au moins de mieux comprendre la situation, sans stigmatisation, ce qui est aussi un point important.
Alors effectivement, on le comprend bien, la difficulté du manager est de conserver le respect de la vie privée de la personne qui souffre d'une maladie ou d'un handicap, tout en maintenant la cohésion de l'équipe, parce qu'il est hors de question que le manager divulgue tous les secrets du collaborateur en difficulté à l'ensemble de l'équipe.
Oui, c'est vrai que c'est une difficulté, mais le manager, c'est aussi son travail. Il est le garant du respect de la vie privée de la personne et il ne doit pas nommer la pathologie, aucun cas. Et dans la pratique, il s'agit plutôt de se concentrer d'ailleurs sur les conséquences du handicap afin de trouver des solutions qui conviennent à la personne et au collectif de travail.
Fabien Nautier, vous êtes l'auteur de Travailler pour quoi faire. On en parle depuis le début de l'émission, dans La vie des entreprises ce matin. La question de la souffrance au travail, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. En une minute, la question de la souffrance au travail, elle est de plus en plus présente dans les entreprises.
Oui, elle est présente du fait de l'évolution du contexte dont on parlait au début de l'émission, à savoir le fait que, de fait, le travail est de plus en plus dématérialisé. Le travail est de plus en plus fait en relation avec d'autres acteurs. Le travail est fait dans des organisations qui changent tout le temps, avec des stratégies qui changent tout le temps. Et donc ça, de fait, ça fait peser une charge psychique, mentale, sur les individus beaucoup plus forte qu'avant. Donc oui, de ce point de vue, l'organisation du travail dans les pays développés comme la France aujourd'hui génère davantage de souffrances psychiques, au passage, davantage que physique.
Oui, donc il faut vraiment que les managers, les dirigeants prennent ça en compte. Et c'est pour ça qu'on parle effectivement à la fois de plus en plus de stress et de plus en plus de bien-être au travail.
Alors nous, on proposerait, comment vous dire, effectivement, dans l'absolu, on peut demander aux managers d'en s'en occuper, mais il faut quand même voir que les managers sont souvent les premières victimes de ces processus. Donc pour nous, la piste plus réaliste, c'est d'essayer, et c'est la raison de l'écriture de cet ouvrage, d'équiper les individus que nous sommes à mieux faire face à ce nouveau contexte. Parce que le parti pris que nous avons, c'est que les seuls, finalement, qui ont dans leurs mains la possibilité de vivre au mieux ce qui se passe, ce sont les individus que nous sommes.
Absolument.
Il est, selon moi, illusoire d'imaginer que l'organisation ou que le manager va s'en occuper.
On fait une nouvelle pause en musique et on se retrouve juste après pour continuer à parler de ce que vous avez écrit, Travailler pour quoi faire, Fabien Nautier, peut-être des pistes que vous donnez pour qu'on s'en sorte bien au travail. À tout de suite.
Jusqu'à midi sur Vivre FM, la vie des entreprises, Alice Farcoa.
Alors, levier d'épanouissement et de réussite personnelle ou activité aliénante et destructive, c'est ce dont nous parlons ce matin dans la vie des entreprises. Fabien Nautier, vous êtes l'auteur, le co-auteur de Travailler pour quoi faire aux éditions Gérezo qui vient de sortir. On parle de plus en plus, on en a dit un petit mot juste avant la pause musicale, de bien-être au travail. On a l'impression surtout que la nouvelle génération, vous qui avez interrogé des personnes de tous âges, de tous horizons à peu près, et autant de femmes que d'hommes, que la nouvelle génération a davantage l'exigence d'être heureuse au boulot. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nos parents, nos grands-parents, comme on le disait peut-être au début de l'émission, se disaient bon, je bosse, c'est comme ça, j'en ai pour 40 ans. Alors que maintenant, il y a cette exigence d'être bien, d'avoir un fauteuil confortable, d'avoir peut-être aussi des actions de l'entreprise pour faire en sorte qu'on soit mieux.
Alors c'est vrai que cette revendication du bien-être existe. Selon nous, elle est beaucoup portée par les médias, par l'environnement. Et elle est portée aussi par les entreprises de la nouvelle économie qui promeuvent beaucoup ça. Je vais aller travailler chez Google, il y aura des baby-foot, il y aura des distributeurs de bonbons, etc.
Il y aura des salles de massage.
Il y aura des salles de massage, il y aura des poufs pour se relaxer. Donc, pourquoi pas, ça, c'est le signe d'une évolution des conditions
c'est
de travail.
C'est très américain, ça ?
Oui, ouais, c'est très américain. Ça, hein. Et pour moi, honnêtement, c'est assez gadget. C'est-à-dire que moi, j'estime que la qualité de vie au travail ne passe pas vraiment par ces gadgets-là, mais plutôt par l'opportunité que l'on a d'y faire des choses qui nous intéressent. Je vous disais tout à l'heure qu'en première partie de vie, ce qui était moteur, c'était les obligations. Ce qu'on a vu dans ce projet de recherche, c'est que ce qui est extrêmement moteur dans la deuxième partie de vie professionnelle, c'est la recherche de ce qu'on a appelé des initiatives. Et ça, vraiment, c'est un enseignement très clair de la recherche. À partir de la trentaine, ce qui va faire moteur pour nous au travail, c'est la possibilité de faire notre travail, certes, mais de le faire à notre façon, de pouvoir proposer des améliorations, de pouvoir proposer des façons différentes de faire, des façons différentes qui nous sont propres. Et ça, c'est un moteur extrêmement fort. Donc ce qui va faire pour nous qualité de vie au travail ou bien-être au travail, par exemple, ça va être d'être dans une organisation qui nous donne cet espace pour pouvoir faire les choses à notre façon. Ça, c'est un élément extrêmement déterminant en deuxième partie de vie professionnelle. Et il y a un dernier élément déterminant pour celui-ci, la dernière partie de vie professionnelle.
Alors, vous allez nous faire peur. Elle commence à quel âge, la dernière partie de vie
Alors, la dernière partie de vie professionnelle, dans le modèle qu'on a ici de notre recherche, on appelle la dernière partie de vie professionnelle, pour nous, elle commence à ce qu'on a appelé le rendez-vous 3. Donc, vous vous souvenez, le rendez-vous 1, c'est le moment où on rentre sur le marché du travail. Le rendez-vous 2, c'est au bout d'un certain temps, le moment où on estime avoir fait le tour des bases de notre métier. Le rendez-vous 3, c'est un rendez-vous très, très particulier qui est décrit par les psychologues depuis les années 30, hein, donc ça n'a rien de nouveau. C'est le moment où l'adulte que nous sommes commence à se poser des questions importantes sur sa vie et en particulier sur sa vie au travail. Un marqueur très clair de ce rendez-vous, c'est le fait que la personne, tout à coup, un matin, se lève et se dit « Mais pourquoi est-ce que je fais tout ça ? À quoi bon tout ça ?»
On a besoin d'un sens à un certain moment de sa vie.
Oui. Donc ça, c'est le rendez-vous 3, que le sens commun appelle le rendez-vous, disons, la crise du milieu de vie professionnelle. Et donc, pour répondre à votre question, dans l'échantillon qui était le nôtre, ce rendez-vous, il peut démarrer en début de quarantaine et aller jusqu'au début de la cinquantaine. Ça dépend des individus. Et là, ça dépend aussi du genre. Selon que l'on est un homme ou une femme, selon nos premières observations, il est assez probable que les femmes rencontrent ce rendez-vous un peu plus tard que les hommes.
Ah, c'est étonnant ça, j'aurais pensé l'inverse.
Alors, je vais préciser les femmes qui ont des enfants, puisque ce qui va souvent accélérer l'arrivée de ce rendez-vous 3, c'est le fait que les enfants grandissent et s'autonomisent. Et que pendant tout le temps où on est avec, qu'on soit homme ou femme, pendant tout le temps où on a des enfants, les enfants sont une raison de vivre suffisante qui atténue les questions que l'on peut se poser. Et le jour où les enfants prennent leur autonomie, se détournent des parents, alors là, les questions sur mais quel est le sens de ma vie, à quoi est-ce que je sers, quelle est mon utilité, prennent toute leur force. Donc c'est pour ça que ce rendez-vous, il n'arrive pas à un âge précis, mais plutôt sur une tranche d'âge entre 40 et 50 ans.
Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a des témoignages dans votre livre, tout au long du livre, et il y a en particulier le témoignage d'Isabelle qui m'a frappée et qui est intéressant, je trouve, parce que elle dit qu'elle a choisi le retrait pas complet, hein, mais le retrait de sa vie active, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte que c'était pas son métier, son boulot, son entreprise qui était le centre de sa vie, et elle a décidé de mettre un peu plus de sens dans d'autres domaines de sa vie.
Oui,
il y a beaucoup de personnes qui font ça.
Oui, il y en a. Alors encore une, là sur l'échantillon qui est le nôtre, on veut pas projeter et dire il y en a des milliers puisqu'on en nous oui. On a rencontré 100. Par contre, ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, ce rendez-vous 3, il produit 4 types de réponses. Première réponse, c'est une réponse qui consiste finalement à faire taire les questions et les doutes qui émergent au moment de ce rendez-vous et à se réinvestir encore plus au travail. C'est une stratégie. Une autre stratégie de réponse, c'est celle que vous décrivez, c'est celle d'Isabelle, c'est décider qu'on va se mettre en retrait. C'est-à-dire, puisqu'on ne trouve plus vraiment d'intérêt au travail, on va faire le minimum au travail et on va se tourner vers d'autres sphères de réalisation
personnelle. La vie associative, des choses comme ça.
Voilà. La vie associative, la vie syndicale, la vie politique, la vie familiale. Ça peut être, par exemple, je fais le projet de rénover une maison secondaire sur tout mon temps personnel.
Oui. Ça peut être je change de mari.
Exactement, ça peut être tout ça. Il y en a une troisième qui est très frappante et que tout le monde a observée autour de lui, c'est la stratégie de la reconversion. C'est assez logique, puisque je rencontre des doutes forts dans mon travail et que j'estime que tout à coup je n'y trouve plus de sens, je vais chercher à changer radicalement de métier. Donc quand je dis radicalement, c'est vraiment radical. Donc c'est l'exemple du financier qui va ouvrir une chambre d'hôte en Lozère. C'est l'exemple, on l'a rencontré dans notre enquête, d'un cadre supérieur d'un grand groupe industriel qui plaque tout pour aller faire un CAP de charpentier de marine à Brest parce qu'il veut construire des bateaux. Ça peut être
c'est génial, ça,
un
c'est
directeur
extra.
Commercial d'une grande entreprise de services qui décide qu'il va créer son restaurant et il va devenir cuisinier, etc., etc. Ça, c'est le choix de la reconversion.
Alors, pardon, je vous coupe, mais il peut y avoir aussi des reconversions, parce que là, vous parlez de choix. Il peut y avoir des reconversions par obligation, à la suite d'une maladie, d'un accident. On ne peut plus assumer son travail, donc on est obligé de se reconvertir. Donc ça aussi, c'est un changement de vie, un changement de carrière. Et puis finalement, on peut se rendre compte qu'on continue à s'épanouir professionnellement
alors,
en
oui,
changeant de vie.
C'est vrai que c'est un cas différent, puisque dans le cas que vous mentionnez, c'est une reconversion imposée, alors que nous, on a exclusivement vu des personnes qui l'avaient choisie.
Oui.
Cependant, le constat qu'elles font, c'est que pendant un temps, cette reconversion les occupe, parce que c'est l'attrait de la nouveauté. Je redécouvre un métier, etc. Mais ce qu'elles nous ont quasiment toutes dit, c'est qu'au bout d'un certain temps, les mêmes questions qui avaient émergé à l'origine du rendez-vous 3 se reposent, en fait.
Ah oui.
D'accord ? Donc c'est de ce point de vue que nous sommes toujours très précautionneux quand des personnes nous disent « je veux tout plaquer, je veux changer de métier ». On les interpelle au moins sur la question qui est « mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir en vivre d'un point de vue économique ?» Parce que vous voyez, ce mythe de « l'herbe est plus verte ailleurs » ne se confirme pas toujours.
Mais vous n'avez pas fait un travail de coach, vous avez fait vraiment un travail de journaliste.
Oui, d'analyste de ce que nous disaient les personnes sur leur propre vie professionnelle. Et alors si je peux ajouter et compléter sur la quatrième stratégie qui nous semble la plus intéressante en fait, on a rencontré un certain nombre d'individus dans cette enquête qui eux, selon nous, ont imaginé une autre réponse possible au rendez-vous 3. Et cette réponse en fait consiste à tenter de trouver dans son travail des activités qui font sens et qui me rendent utile dans le cadre de mon travail. C'est ce qu'on a appelé l'investissement d'un autre registre d'activités qui sont les aspirations. On avait dit dans la première partie, ce sont les obligations, dans la deuxième, ce sont les initiatives, et dans la troisième, ce qui nous semble parfaitement marquant et qui pourrait montrer la direction pour l'avenir, ce serait d'encourager les individus à investir leurs aspirations. Les aspirations étant des activités dans lesquelles je voudrais m'engager parce que j'estime que c'est utile, j'estime que ça a du sens. Et au passage, elles ont une autre caractéristique très intéressante, c'est qu'elles m'obligent à me dépasser. C'est-à-dire qu'elles m'obligent à aller au-delà de ma zone de confort, au-delà de ce que je sais faire de façon courante, j'allais dire. Et faisant cela, elles procurent aux individus, disons, elles proposent une réponse à cette question de sens et d'utilité qui avait émergé au rendez-vous 3.
On arrive au terme de notre émission, Fabien Outier, je suis absolument désolée. Il y avait un dernier point qu'on aurait pu aborder, il s'agit de la retraite. Mais on vous reviendrait, hein, j'espère. Je sais que vous n'habitez pas Paris, vous reviendrez. Voilà, les micros sont ouverts, vous pouvez venir quand vous voulez, maintenant vous connaissez le chemin. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, Travailler pour quoi faire. On mettra toutes les infos, les liens, la couverture de livre pour que vous soyez sûr de le trouver sur notre site internet. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Lim d'avoir réalisé cette émission. Tout est possible sur levivrefm.com, rubrique La vie des entreprises. Bonne journée à tous à l'écoute de Vivre FM. Dans quelques minutes, les infos, puis la suite de vos programmes. À très vite.
Vivre FM, podcast.